Je voudrais qu'on se mette bien d'accord sur l'époque dans laquelle on vit. Parce que si c'est l'époque du sida, alors y a pas les Allemands. Et si c'est l'époque des Allemands, alors y a pas le sida. Et on baise.
Les filles, vous m'entendez?
Please, I need help.
Oh, je déconne.
Allez. Une heure to vous.
Hey, boys! Come save me!
We're gonna be fine.
Say it again.
Une heure to vous.
We're gonna be fine.
Now, go wait.
Allez, action!
Help me!
Action, pourquoi faire?
Vous avez une devise, lui demande-t-on. Il répond par une citation de Pierre Loti, « Je ne suis pas mon genre ». Une réponse cache et abyssale, venue d'un acteur qui a défié le genre. Dans des comédies comme dans des drames, des types d'hommes hors de lui, tout sauf lui ou vraiment lui. Le mystère demeure. Bonjour tout le monde et salut Laurent.
Bonjour Christine, bienvenue à toutes et à tous.
Le livre s'intitule « Michel Blanc sur un malentendu » et son auteur Alexandre Ravelot, en 246 pages, raconte l'acteur « Mais l'homme, à la fin, reste opaque, et ça c'est bien ». Bonjour Michel Blanc.
Bonjour.
Cette bio éditée chez Hors Collection évoque votre enfance, votre parcours, vos rencontres, le cinéma, l'écriture, la musique, votre modestie et votre curiosité. Mais de quel malentendu s'agit-il dans ce titre? On tentera d'y répondre ce matin. Sinon, nous avons fait un petit tour à Clermont-Ferrand à la 40e édition du Festival du court-métrage qui se referme ce week-end. Les salles sont pleines, le public passionné. Le court, un genre en soi. Tous les genres, enfin, dans les nouvelles sorties de la semaine avec trois héros dans un train, une revanche féminine, un ado déprimé, un homme de la préhistoire et un atelier de conversation.
Dites donc, je vous signale que c'est pas moi qui ai décidé d'être votre sosie en naissant. Hein. Parce que figurez-vous que si j'avais eu le choix, je me serais arrangé pour ressembler à quelqu'un d'autre. Vous croyez que c'est facile d'avoir votre gueule? D'autant que vous les avez collectionnés, les rôles de cons, hein? Ça vous dirait pas de varier un peu? Vous allez finir par lasser, vous savez.
Oui, bah épargnez-moi vos conseils. J'ai pas attendu après pour réussir.
C'est dommage. Ça vous aurait évité deux ou trois navets. Vous voulez des titres?
Puisque c'est si honteux que ça, pourquoi est-ce que vous vous faites passer pour moi alors?
Parce que j'ai tous les inconvénients. Y a pas de raison que j'ai pas aussi les avantages.
Extrait de Grosse Fatigue, votre deuxième réalisation Michel Blanc après Marche à l'ombre. Quelle autodérision jouer comme ça avec son image, votre image justement, et c'est ça le malentendu du titre, du livre.
Alors je sais pas, faudra demander à l'auteur, parce que c'est pas moi qui ai choisi le titre. Sur un malentendu, c'est un extrait des Bronzés. Alors je sais pas de quel malentendu il pourrait s'agir d'autre, mais l'autodérision, ça parle aux gens. L'autodérision, oui. Oui.
Énorme.
Mais je suis pas devenu acteur sur un malentendu, je suis devenu acteur sur un enthousiasme et une envie. Hein.
Vous êtes devenu acteur, enfin la vocation est née sur un énervement, une colère faite de fin d'année.
Oui.
On vous propose d'être figurant.
Et... J'étais petit. On peut dire que c'est la première fois où je me suis dit, tiens, pourquoi est-ce que je suis figurant? Non, c'était une reconstitution de corrida pour la fête de... C'est des écoles, et je sais pas, je devais avoir 7 ans. Et on a choisi, tiens, toi, tu seras le toréador, tiens, toi, tu seras... vous allez faire le taureau tous les deux, machin. Et puis moi, je me suis retrouvé dans les gradins à faire un spectateur, et ça m'a agacé. Je me suis dit, un jour, je serai le toréador. Voilà.
Et vous l'avez dit à vos parents?
Ouais, mais j'ai dit à mes parents, j'aimerais bien devenir acteur. Et mes parents, comme tous les gens de milieu modeste, pensent que pour devenir acteur, il faut avoir des relations.
Oui.
Je suis la preuve que non. nous n'avions pas de relations. Ça, je le savais bien. Parce que à Puteaux, où je vivais, les relations qu'on avait, ils étaient charbonniers, épiciers, voilà. Et donc, je me suis dit, c'est comme avoir une voiture rouge. On en a ou on n'en a pas. On n'a pas de relation, donc je ne serai pas acteur. Donc je serai ingénieur électronicien.
Ah
voilà.
Oui, mais les relations, vous les êtes faites à Neuilly-sur-Seine, avec des fils de famille.
Avec
hein.
Des gens de la haute.
Oui.
J'ai traversé la Seine du bon côté, mais sans l'habiter, mais pour aller au lycée. Quoi.
Cette célébrité donc que vous évoquez dans Grosse Fatigue... Elle a été aussi dure à encaisser quand même après
non.
Le succès, non?
Mais non, mais non. Jamais. D'ailleurs, c'était mon problème en faisant ce film, c'était... J'appréhendais cette question qui m'a pas trop été posée. Pourquoi? Parce que je me disais, mais en fait, ce dont je me moque, enfin je disais aux gens, ce dont je me moque, c'est pas des gens... qui vous demande des autographes, c'est pas des acteurs, c'est de notre rapport, le rapport commun que nous pouvons, qui est un rapport de fou. entre des gens qui vous connaissent alors que vous ne les connaissez pas, qui vous parlent, et ça c'est très sympa parce que moi ça se passe toujours très bien, qui vous parlent et c'est très, et ils vous disent je voudrais pas vous déranger, mais ils se rendent pas compte à quel point ça me fait plaisir quand je suis dans le bus ou dans le métro que des gens me disent, viennent me dire continuez hein, parce qu'on aime bien ce que vous faites. Mais dans quel métier vous avez cette ce bonheur là? C'est exceptionnel. Donc ça, moi, c'est surtout pas un film qui se plaint.
J'ai évoqué La Célébrité après Les Bronzés, mais surtout avant Les Bronzés, vous avez tourné d'autres films, et notamment avec Claude Miller, un sacré film, ouais. La meilleure façon de marcher, aux côtés de Patrick Devers et Patrick Bouchitet. Un second rôle, certes, mais inoubliable, celui de Raoul Delou, maître
bah, c'est de un colonie, surveillant, ouais, colonne, surveillant de
fragile, amateur de Bergman, mais en VO, et humilié par Claude Pieplu, le directeur du camp.
Silence, silence. Mes enfants, je dois vous annoncer un fait que je déplore, certes, mais Raoul Delou va devoir nous quitter. Notre camarade a commis une grave faute professionnelle. Dans un établissement comme le nôtre, c'est inacceptable. Ceci doit servir d'exemple. S'il m'est arrivé parfois d'être sévère, vous savez très bien que mon souci est l'équité et la justice. Je sais que dans la vie, personne n'est exempt de faiblesse. Raoul Delou, nous vous disons au revoir et à bientôt. Nous conserverons malgré tout un excellent souvenir de vous.
D'ailleurs, ce qui serait très bien maintenant...
Dites-leur donc quelques mots, non, ce serait très gentil et non, très élégant. Et d'ailleurs, Monsieur Delou va vous dire quelques mots.
Merde ! Vous faites chier ! Vous faites tous chier ! Merde ! Bah !
Vous l'empêchez d'avaler sa langue.
Laissez-moi faire. Comédie, mais emportez-le. Il est dégoûtant.
C'est vous la paix. Ma valise.
Faites quelque chose, il s'amuse.
Bougez là. Allez, bougez. Poussez là, nom de Dieu.
Michel Blanc, sacré scène, sacré film. Vous vous souvenez de ce tournage, j'imagine, cette scène.
Oui,
folle.
Je me suis cassé une côte en faisant ça. Oui, parce que je savais pas du tout comment le jouer. C'est très honnêtement, c'était mon premier vrai rôle, et j'osais pas dire à Claude, je sais pas comment je vais le jouer. C'était très étrange. Claude m'a pris à part. On est allé marcher dans le champ à côté. Il m'a dit bon, tu veux qu'on en parle? Je dis écoute, je vais voir ce qui vient. Tu veux me montrer un peu? Je préfère me lancer. Mais j'avais pas la moindre idée de ce que j'allais faire. Et donc je me suis lancé dans cette espèce de crise d'hystérie, et en faisant cette crise d'hystérie, je me suis roulé, je suis tombé sur un de mes poings. Et mon poing a cassé une côte, quoi. Donc après, j'ai eu un mois et demi où je me rappelais bien la prise, quoi.
Réaction de Devers.
Et Patrick m'a dit un truc, parce que j'ai dû me casser la côte en le tournant, pas à la répétition. À la répétition, je sais même plus si on a répété d'ailleurs. Non, on a fait tout de suite. Mais après la première prise, Devers m'a regardé, il me fait « Mais tu vas le jouer comme ça ?» Et je ne savais pas ce qu'il voulait dire, si c'était ridicule ou... Voilà, je sais toujours pas d'ailleurs, le pauvre n'est pas là pour répondre, mais...
À l'époque, c'est pas une schizophrénie, mais vous étiez d'un côté Les Bronzés et de l'autre avec des auteurs. J'ai dit Miller, mais il y avait Tavernier.
Non, j'étais pas Les Bronzés à ce moment-là. C'est justement ça le problème.
Ah oui.
C'est que à partir du moment où je suis devenu Jean-Claude Duss pour les Miller, Tavernier et autres, ils m'ont plus proposé de rôle.
C'est ça.
Vous l'avez senti comme ça vraiment?
Je l'ai vécu comme ça.
Vous l'avez vécu comme ça.
Le premier qui est venu me repêcher et qui était un auteur, c'est Bertrand Blier.
Ouais.
Avec Tenue de soirée.
C'est assez pauvre comme raisonnement, quand même.
Ben, c'est un raisonnement d'un télo. Je voulais que je vous dise...
Qui vous mette dans une case.
Ah ben ça, c'est très français, la case. Hein. C'est très français, c'est comme ça. Moi, j'ai tout fait jusqu'ici, et je compte bien continuer. J'ai tout fait pour essayer d'être dans plusieurs cases à la fois, selon selon les propositions, de faire des films qui m'intéressaient, et pas seulement des films... Pas être prisonnier de la comédie, j'adore faire rire, mais pas tout le temps et pas avec n'importe quoi. Et j'adore émouvoir, et j'adore... voilà. Et cette scène-là, elle est formidable parce qu'elle est à cheval entre les deux. Oui. Il est ridicule, oui. Et puis il est plus à mourir de rire, mais la scène, elle est pathétique. En fait, parce qu'il faut dire quand même aux gens qui... La raison pour laquelle je suis exclu, c'est-à-dire mon personnage, c'est qu'il n'a pas que des bouquins très sérieux, il a aussi l'équivalent d'un lui, ou d'un je sais pas quoi, d'un Playboy, d'un machin, d'un truc où il y a des photos de femmes nues. Sa paillasse, sous son lit, et un des deux le découvre et le balance. Donc évidemment, c'est horrible.
Les cas parfois s'inversent quand vous allez au Japon et que découvert Monsieur Hir d'abord, ils disent ah, vous faites aussi des comédies.
Oui, quand ils ont c'est-à-dire qu'ils avaient le premier film qui a eu un relatif, parce que c'est toujours relatif succès, mais enfin quand même, on avait fait pas mal d'entrées à Tokyo au moment de la sortie de Monsieur Hir. Et j'y retourne quelques années après avec, je crois que c'était avec... avec Grosse Fatigue. Mmh. Et donc, elle a interviewé, la fille qui m'interviewe me dit mais alors, qu'est-ce que ça fait de faire de la comédie quand on est un acteur dramatique comme vous ? Je me suis marré, j'ai dit, si vous viviez en France, vous me poseriez la question inverse. Mais...
C'est vrai que vous vous êtes fait avoir sur le cachet tous des bronzés 1 et 2, c'était un
bon,
peu... Vous avez dit que en faisant les bronzés 3, oui. Vous récupériez un peu...
C'est-à-dire que, je vais vous dire combien on a touché sur les bronzés 1, on a dû toucher en tant qu'acteur... alors attendez, faut que je refasse la...
En francs
avec les francs, 10 000 euros.
Oui.
Et on a dû avoir 15 sur le deuxième. Mm. Peut-être.
Et sur le 3 ?
Ah bah, sur le 3.
Alors, 10 fois plus ?
Ouais, je sais plus exactement parce que le problème, c'est que sur le 3, on était payé. Enfin, moi, j'ai pas écrit le 2. Mm. Et ça a été un truc global. C'était le scénario plus l'interprétation. Mm. Plus, voilà. Donc, on s'est dit au bout du compte, si on divise par 3, ça fait le salaire qui n'a rien à voir avec les salaires. Mirobolant, si on avait eu à chaque fois ce salaire-là, oui, ça c'est sûr que ça serait formidable, mais ça n'est pas le cas.
En tout cas, via ces films, vous avez rencontré Patrice Lecomte, avec lequel vous aviez une grande complicité. Est-ce que c'est lui qui vous a un peu poussé ou qui a réalisé votre premier film, Marche à l'ombre?
Oui, totalement. C'est-à-dire que j'avais écrit avec lui plusieurs films.
Ouais.
Viens chez moi, j'habite chez une copine, etc. J'avais retravaillé les dialogues d'un scénario, ma femme s'appelle Revient, enfin bon, etc.
Dans ces titres.
Et puis, à un moment, j'ai une idée, d'un film qui serait, parce que je disais, mais c'est fou, on fait toujours des comédies en France qui se passent dans le 16e, les maris trompent les femmes, ils vont jouer au tennis, ils ont des belles voitures, ça me fait chier, voilà. Et pourquoi on ferait pas des comédies? Pourquoi on ferait pas marrer dans un squat avec des Africains? Quand même, c'est une chose à l'époque, le phénomène de squat existait, mais ça n'avait pas la même connotation. Je disais, il n'y a pas de raison, quoi. C'est pas des parias. Et il peut y avoir des amitiés, des choses comme ça. Et donc, je lui ai proposé. Il m'a dit, tu vas le faire.
Marche à l'ombre 84, Gérard Lanvin, duo inoubliable. Donc, François Routard fatigué et Denis, c'est vous, son compagnon négatif et angoissé, victime de certaines substances.
C'est toi, François ?
Oui, c'est moi.
Ça va pas ? J'ai très très froid.
Ah, mais ça va s'arranger.
T'as fermé la porte ?
Oui, pourquoi ?
Parce que j'ai été attaqué par des renards tout à l'heure.
Ah, mais c'est normal, ça, c'est la saison.
Ah bon ?
Viens aller si tu veux, hein, parce que les plantes sont graves, là, il y en a pour un moment.
T'es sûr ?
J'ai du mal à parler parce que j'ai les dents qui poussent.
Si t'as besoin de quelque chose, tu m'appelles. Hein.
Bon, essaie de dormir un peu, là.
Ah non, j'ai peur qu'il neige.
Bah, s'il neige, je te réveillerai.
Tu promets ?
Bah oui. Ah.
On meurt, tu restes là, hein.
Oui.
S'ils reviennent, j'ai des comprimés contre les renards dans mon sac. T'auras qu'à les prendre, hein.
Mais t'inquiète pas, ils me connaissent, les renards. Garde-les pour la prochaine fois.
Voilà. J'éclate de rire, Michel Blanc sourit. Marche à l'ombre, 6 millions de spectateurs. Tapis rouge, Vertige.
Vertige, oui, on peut appeler ça comme ça, mais... je sais pas comment dire, ça m'a laissé chaos debout.
Oui.
Mais c'est pas un vertige, c'est je m'y attendais pas. Enfin, j'espérais bien que les gens riraient, mais 6 millions pour son premier film. Bon, alors après vous avez les producteurs qui vous disent faut faire le 2, faut
ça enfin, même chose.
Voilà, c'est-à-dire comme c'est pas dans ma nature on parlait des Bronzés 3 tout à l'heure, je l'ai fait parce que mes copains voulaient absolument faire un 3 et que je me disais si je le fais pas ça donne un signal terrible à ça veut dire que je renie donc oublions ça et essayons d'en faire un 3. Très honnêtement, c'est pas ce qu'on a fait de mieux. Mais enfin bref, c'est comme ça. Il a quand même fait 10 millions d'entrées, donc c'était plus de la curiosité que de l'enthousiasme, j'en suis conscient. Et donc, pendant 10 ans, je me suis dit, fais attention parce que maintenant, tu peux tout faire, en gros. Tu es responsable du reste de ta carrière. Alors, réfléchis bien. Si tu refais une comédie de café-théâtre, tu n'en sortiras jamais. Et tu feras partie de ces acteurs qui gagnent beaucoup leur vie pendant un certain temps parce que bon, ils sont bien payés. Oui. Quand on a fait 6 millions d'entrées, on est bien payé. Mais petit à petit, les gens se lassent, disent il fait toujours pareil. Et puis en plus, je m'emmerderais à le faire. Alors si je vais emmerder les gens aussi, si j'ose dire. Donc voilà. Donc j'ai mis 10 ans à trouver. Alors c'était aussi une comédie, mais beaucoup plus cinglée, grosse fatigue. Mmh. Où là, il y a une recherche d'absurde. Oui.
Mais c'est drôle, vous dites, la raison pour laquelle je m'écris des rôles limités fondés sur un ressort névrotique simple est probablement qu'au fond de moi, je doute de mes possibilités d'acteur.
Oui, c'est vrai. Quand j'écris, quand un réel, par exemple, quand Pierre Scheller m'a proposé le rôle de
l'exercice
Gilles,
de l'État, ouais.
Que j'ai adoré faire, et je l'ai lu, je lui ai dit, je rêve de faire ça depuis longtemps, est-ce que tu crois que j'en suis capable? Si tu me dis oui, j'y vais. Parce que
mais pourquoi? Qu'est-ce qui vous
semble? Parce que j'ai besoin que quelqu'un ait la confiance que je n'ai pas forcément tout le temps en moi. C'est-à-dire, est-ce que le public va accepter de me voir dans ça? Voilà. J'ai eu la même réaction sur Monsieur Hir. Je me disais, mais est-ce que je vais pas être rejeté hein, dans le genre? Mais qu'est-ce qu'il nous fait là? On ne veut pas le voir là-dedans.
Mais vous savez où est votre place pourtant, vous savez qui vous êtes.
Non, je sais qui je suis, je sais de quoi j'ai envie.
Oui.
Je ne sais pas forcément de quoi les spectateurs ont envie.
Est-ce que c'est si important que ça, pardonnez-moi, hein, de la formule un peu provocatrice, mais
oui.
Que les spectateurs aient envie. Non, mais voilà.
C'est tout qui paye.
Ouais. Ouais.
Et c'est pas seulement.
Mais c'est très difficile de savoir ce qu'ils pensent.
Mais justement, c'est pour ça qu'il faut prendre des risques.
Oui.
C'est-à-dire que moi, vous me proposez un scénario. Si je le trouve bon et que le rôle me fait peur, je le fais.
Extrait, on va voir justement avec tenue de soirée.
T'as l'air tellement constipé qu'on a forcément envie de te charrier. Charrier. Rier. Hé. Hey.
Parce que là, tu me charriais, là.
À ton avis?
La main à la braguette, tout ça, c'était bidon.
Et que je te patauge dans la semoule, et que je te patauge dans la semoule. Mais mon pauvre ami, si j'étais vraiment pédé, il y a longtemps que tu y serais passé la casserole, enfin. Réfléchis un petit peu, un mec comme moi. Je te coince entre deux portes et hop, bonjour le chocolat. Ramonage du boyau, la turbine ensorcelée, rouleau de printemps, bout d'un créole. Je te sers un coup de pommard. Ça rime avec braquemar. Et puis avec canular aussi.
Excuse-moi, mais j'ai des doutes. Je suis peut-être con, mais j'ai des doutes.
Ah, ça pourrait te compter, con, hein. T'as une belle gueule, mais t'as pas inventé le caoutchouc mou.
Ne t'occupe pas de ma belle gueule. Je le sais bien que j'en ai pas une. C'est pas tous les jours marrant à porter.
Regarde-toi dans mes yeux, tu vas te trouver sublime.
Depuis que je te connais, je t'ai jamais vu avec une femme.
Mais qu'est-ce que tu veux que je foute d'une femme, enfin, voyons. Les femmes, c'est trop facile. C'est comme les maisons, ça ne demande qu'à s'abandonner. Moi, ce que j'aime, c'est quand ça résiste. Toi, par exemple.
Il y a des femmes qui résistent.
Quand elles sont tartes.
Même parfois des beautés.
Mais non.
Mais si, c'est même le cas le plus répandu.
Mais arrête de discuter avec moi, s'il te plaît. C'est la laideur qui résiste. La beauté, elle se donne, ou alors elle se prend.
Oui, ben moi, je me défends.
Quel dialogue, Michel.
Ah, c'est
Bertrand Blier,
évidemment. Oui, non, mais Bertrand, c'est... Je pense que c'est l'auteur, metteur en scène, qui m'a le plus influencé. Il y a eu un avant-Blier, un après-Blier.
En quoi?
D'abord parce qu'il m'a fait comprendre que le cinéma, c'était beaucoup plus libre, ouvert et fou que ce que l'on peut voir très souvent. C'est-à-dire que c'est pas des téléfilms raisonnables pour heure de grande écoute, le cinéma, c'est autre chose. Alors ça peut être Bergman, ça peut être Blier, ça peut être ce que vous voulez, ça peut être une comédie complètement déglinguée, ça peut être voilà. Et ça c'est la première chose. Et la deuxième, c'était cette liberté sur le plateau. Qui, d'abord, et puis en plus les dialogues. Ça, moi j'étais les dialogues, je les connais tous. Je connaissais ceux de Gérard aussi parce que c'est de la musique.
Oui.
C'est tellement bien écrit. Voilà. Et je me suis dit oui, ça m'a probablement déclenché une envie d'être plus exigeant sur les dialogues, d'aller plus loin, et aussi sur le plateau. Sur le plateau, il a des libertés, c'est-à-dire que je l'ai pas fait sur mon dernier film que je viens de terminer parce que les conditions de tournage maintenant sont très très dures. Je n'ai eu que 9 semaines pour le faire. Je pouvais pas me permettre de ne pas préparer vraiment très fortement les scènes à l'avance, le découpage, savoir comment j'allais le filmer. Mais lui, il arrivait sur le plateau. Là, cette scène-là, on est arrivé sur le plateau en studio. Il y a pour que les auditeurs qui n'ont pas été spectateurs du film sachent de quoi il s'agit. On est autour d'une espèce de bar, de salon, avec une cuisine ouverte, et il y a des hauts tabourets sur roulettes. Il ne savait pas comment il allait mettre en scène la truc. Et puis à un moment, Gérard a fait un mouvement pour venir vers moi, assis sur son tabouret. Et il a dit, c'est ça qui est bien, c'est ça qui est marrant. Tiens, va vers lui. Après, pour dire ça, tu vas vers lui. Après, toi, tu t'en vas. Après, voilà. Et je me suis dit, mais quelle liberté merveilleuse!
Chabrol arrivait sur le plateau le matin, quand il ne savait pas quoi faire, il disait installer un travelling. Ça leur prenait 2 heures, oui, et comme ça, il pensait aux choses à venir.
Ce sont les limites de Chabrol. Pour
vous êtes drôle parce que vous acceptez un rôle pareil, vous êtes nu chez Mocky. En revanche, vous refusez Sautet pour quelques jours avec moi.
Oui, alors, Dieu sait que dans le milieu... Je peux vous dire que chez Armédia, parce que c'est toujours mon agent, qui était l'agent de Sautet aussi, on a dit, mais pour qui il se prend, il est cinglé, quoi. Il refuse.
C'est le rôle de Daniel Auteuil, hein, ouais, le rôle principal.
Il refuse un Sautet, il est malade. J'avais déjeuné avec Claude Sautet, il m'avait expliqué en gros, et quand j'ai lu le scénario, je me suis dit, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi, il faudrait un mec comme Auteuil, ce qui est quand même marrant. Je lui ai rien dit, hein. Il faudrait un mec comme Auteuil. Parce que ce personnage, il faut qu'il ait une dimension, sans être un playboy, il faut qu'il ait une dimension de séducteur que Daniel a. Et que je n'avais certes pas à l'époque. Et je me suis dit, avec moi, ça va plomber le film. Ça va le rendre très différent. Je saurais pas comment le jouer. Il y a des scènes auxquelles... Voilà. Donc, c'est des considérations comme ça. Et pas du tout le talent de Sautet, évidemment.
C'est rare d'avoir cette clairvoyance-là et modestie-là pour un acteur.
Je vous disais que j'aime bien que ça me fasse peur. Maintenant, il faut que ça me fasse peur à l'intérieur d'une certitude que si j'y arrive, ça sera bien. Impossible, là, je me disais, même si j'y arrive, je crois que ça sera pas bien.
Monsieur Hir, ça vous faisait peur ?
Oui. Oui, parce qu'il fallait jouer avec très peu de mots. Moi qui parle beaucoup, vous vous en rendez compte, et qui ai le visage qui bouge beaucoup. Il fallait pas bouger le visage et pas parler.
Alors on va écouter cet extrait qui est absolument magnifique. Pour moi, c'est un de vos morceaux de bravoure. Donc, Monsieur Hir, adapté de Simenon.
Certains soirs, il m'arrive de fondre en larmes tout seul chez moi, sans pouvoir m'arrêter. J'ai jamais avoué ça à personne. Alors quand je sens monter ces moments-là, je sors. Et je viens ici. Il y a les odeurs, les parfums qui se mélangent. Je ne demande jamais une fille en particulier. Peut-être pour ne pas m'attacher. Je m'assieds sur cette banquette, je ferme les yeux, j'attends. Quand la fille entre, je sais laquelle c'est. Parce que dans le courant d'air de la porte, son odeur vient jusqu'à moi. Et je garde les yeux fermés. Elle est tout près. Elle commence à me déshabiller doucement. Elle est nue. Avec juste une serviette nouée autour de la taille. Parfois, ses seins frôlent mon dos, À peine. J'adore ce contact furtif. Vous pouvez pas savoir comme ces filles ont la peau douce. Elle me frôle encore. M'embrasse par petites touches, sans que je sache où vont se poser ses lèvres. Puis quand elle sent que mon désir est trop fort, elle s'allonge ici, dénoue sa serviette, s'offre à moi, souriante, les cuisses légèrement ouvertes. Et tout cela est fini à présent. Ces femmes, je ne les honore plus. Je ne veux plus les honorer, vous comprenez?
Pourquoi vous me racontez tout ça?
Parce qu'il y a quelques mois, quand vous êtes venu vous installer en face, tout a basculé. Je vous ai d'abord regardé par hasard, et puis très vite, j'ai pas pu détacher mes yeux de votre fenêtre. Et si je ne fais plus l'amour aux filles de cette maison, c'est parce que je suis tombé amoureux de vous. Je vous aime, Alice.
Ça vous fait quoi de vous réentendre, Michel Blanc, dans ce si bel
J'avais extrait. Totalement oublié ce texte, pour être honnête. Mm. Et d'ailleurs, en cours d'audition, je vous ai dit « Ah oui, c'est vrai, c'est la scène du salon de massage.
Oui. »
Et c'est vrai que c'est un beau texte, mais je comprends que j'ai eu peur. Parce que il n'y a pas de parachute ventral. Non.
Ce film et tous les autres sont racontés, et votre vie dans ce livre, Michel Blanc
pas
sur
ma
un
vie. Hein,
non, pas votre vie.
Non, c'est
non.
Les gens ne sait rien.
Le cinéma, non, la musique, le théâtre.
Mon enfance, oui.
Ouais, mais et votre enfance.
Après, je trouve que... Je peux citer juste un George Wilson, grand acteur, oui. Disait un acteur, ça doit toujours avoir une part de mystère, sinon on ne croit pas à ce qu'il joue.
Ben, je vous jure que c'est réussi ce point de vue-là. Alexandre Ravelot, Michel Blanc sur un malentendu, chez Hors Collection. On se retrouve après Nerd avec Kendrick Lamar pour évoquer Clermont et les sorties. Fine, gonna up and up this life. 40 ans de court-métrage, ça se fête et c'est à Clermont-Ferrand.
Il y a bientôt plus de place au parterre, je vous recommande d'aller au balcon, il y a bientôt plus de place au parterre.
Clermont, c'est un peu ma maison mère, c'est un des premiers festivals où je suis allée avec mon film de diplôme. Et c'est le festival où je suis allée aussi avec mon second après Cannes. Et c'est aussi, il a aussi une importance très particulière parce que pour le deuxième film, le repas dominical, j'ai gagné deux prix. J'ai gagné un prix pour l'animation et un prix du jury. Et je me souviens que c'était très important pour moi qu'il y ait cette, entre guillemets, reconnaissance de ton film est certes dessiné, mais c'est un vrai film. Et c'est là où j'ai rencontré des gens avec qui j'ai travaillé par la suite. Enfin, c'est vraiment une ambiance et une volonté politique qui est très très rare, qui est conservée ici avec franchement une certaine hargne et que je trouve admirable. Il y a vraiment un respect absolu de ce que la culture apporte aux gens, un respect absolu du lieu, de la ville, des gens de la ville à qui on montre ces films, de tout ce qui est organisé par l'association Sauf qui pour le court-métrage, avec des lycéens, c'est impliqué dans la société civile. Et c'est très très beau quand on voit que le cinéma est capable de faire ça.
Céline Deveau, jeune réalisatrice, scénariste, directrice de la photo et animatrice de ces films très doués, qui fait partie de cette nouvelle génération qu'on le retrouve au Festival du court-métrage de Clermont, qui fête ses 40 ans cette année, fait le plein des salles, 162 000 spectateurs sur 3 générations, pour 3 compétitions nationales, internationales et labo, et un marché international lui aussi, le seul du film court, un public de passionnés. Nous y étions, et parmi ces réalisateurs, Michel Blanc, je vais vous présenter Jean-Charles Pogam, qui a tourné son film Nuit debout à l'arrache, en mêlant sa fiction, un jeune type cherche une chambre pour la nuit, à la vie réelle, celle de la place de la République, pendant Nuit debout. Le résultat est drôle, bien écrit, bien improvisé, bien mené, le tout pour 5000 euros, un défi.
Bonjour, alors moi je suis assez d'accord avec ce qu'elle dit, Eve. Pour moi ça n'a pas passé par la violence, le mouvement, je pense que si on provoque de la violence, ça va tourner en rond, tu vois, les gens vont se foutre sur la gueule entre eux, tout ça, et voilà, du coup, je vais rebondir à ce que tu disais, c'est que moi, je viens de quartiers un peu pourris, tu vois, dans le nord, du quartier du nord, on est obligé de se débrouiller un peu tout seul, tout ça, donc au bout d'un moment, il n'y a qu'une seule solution qui s'est présentée à moi, c'était de m'engager. Dans l'armée, justement, dans l'armée. Je fais la Bosnie, l'Herzégovine, l'Afghanistan pendant 9 mois, se faire tirer dessus comme des connards par les musulmans. J'ai fait.
Les islamistes, peut-être, ouais.
C'est quoi ?
Les islamistes plutôt.
Par les islamistes, voilà. Et du coup, moi, quand je suis rentré en France, et j'avais grave le seum, tu vois. J'avais grave la haine, tu vois. Je voyais un peu qu'il y avait une scission, un peu, tu vois, entre le peuple, l'État, tout ça, quoi, tu vois.
D'accord, ok, t'as quelque chose de plus concret à proposer ?
Le plus concret, moi je pense que il faudrait faire une grosse partout sur la place de la République. Tu vois, il y a des gens qui filment tout le temps là, tu mets des vidéos sur YouTube, il y aurait plein de likes, on serait un peu d'argent, tu vois, avec la pub. Les filles qui regarderont, tu vois, ils ont plein de seum comme ça, nous regardant en train de baiser comme ça, tu vois. Mais avec des gens select et tout, que des gens consentants, tout ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait aboutir par l'aboutissement.
Et en fait, je me suis dit, et s'il y avait un type qui n'avait rien à faire avec Nuit debout et qui devait en fait prétendre être le plus militant des militants, et c'est un concept assez classique finalement, c'est ce qu'on appelle le fish out the water dans les techniques de scénario, c'est en fait on prend une personne qui n'a rien à voir avec la choucroute et on le balance en fait dans cet univers, dans ce monde-là, et en fait il doit se dépatouiller. C'est un concept très... Alors je sais pas qui l'a... Je pense qu'il n'y a personne qui l'a vraiment créé, en fait. C'est juste une espèce de... Moi, j'ai fait la FMI sans série télé. Donc, en fait, je viens plutôt de l'écriture, du scénario. C'est pour ça que je pense que j'ai un scénario assez, assez construit. Mine de rien, on l'a écrit très, très vite. Moi, j'ai pensé à l'idée 3 semaines avant de tourner. Donc, voilà, ça s'est fait. Mais c'était aussi très, très libérateur de cette écriture très automatique où, en fait, souvent, même pour un court-métrage, on doit écrire, réécrire, etc. pour avoir les financements. Là, on ne pouvait pas prétendre à des financements puisqu'on ne savait même pas si Nuit debout allait durer. Donc en fait, on était obligé de tourner très vite, et cette manière en fait de ne pas trop surestimer le scénario, en fait, de se dire bah voilà, là, je sais pas.
pas trop par rapport à la scène, mais on arrivera à trouver un truc au tournage et de se nourrir en fait de toute la réalité d'un tournage fait complètement à l'arrache avec 3 francs 6 sous, et en fait de prendre toute cette réalité, et donc en s'aidant de ce concept du fish out the water, qui est en fait une mécanique, mais qu'on retrouve dans plein de comédies américaines. Alors effectivement c'est plus américain, mais même en France, finalement, sans le savoir, il y a beaucoup d'auteurs qui écrivent un fish out the water.
Vous êtes né en quelle année ?
1982.
Ça veut dire que vous êtes né un an après la sortie d'un film qui s'appelait « Viens chez moi, j'habite chez une copine ».
Oui.
Est-ce que vous l'avez vu, ce film ?
Oui, bien sûr, je l'ai vu quand j'étais jeune, c'est avec Michel Blanc, c'est ça ? Ouais.
Et on reçoit Michel Blanc, justement, et je trouve que votre personnage, il ressemble incroyablement au personnage de Michel Blanc dans ce film.
Ouais, c'est vrai qu'il y a... Enfin, j'y avais pas vraiment pensé, même si je trouve que c'est une très bonne... Enfin, c'est ce qu'on faisait de bien dans le cinéma français. En fait, c'est un personnage, mon personnage principal, et aussi... on est en empathie avec lui, et en même temps, il est pas très très sympa. Et Michel Blanc, c'est exactement ça dans le film. Il était pas très sympa, et en même temps, il était en galère, donc on avait une empathie pour lui, et il dégageait ce truc impertinent, un petit peu, voilà. Et c'est vrai que Pierre, mon acteur principal, Pierre Lottin, il a ce truc-là où, en fait, il envoie chier des gens, il est pas très agréable, et en même temps, on a une empathie directe avec lui parce qu'il est en galère, et donc, en fait, il doit trouver, voilà, où vivre, une chambre.
Le cours, c'est un genre en soi.
C'est un genre c'est un genre en soi, c'est un format très très compliqué parce que, en fait, on est presque entre un truc de pub. C'est-à-dire, il faut avoir une idée très très forte parce que c'est une mécanique, ça va très très vite. Donc, on peut pas vraiment commencer à rentrer dans les personnages et dans la psychologie des personnages. Et en même temps, on a quand même, étant donné que le cours, il n'y a pas vraiment énormément de financement et que tous les réals de cours veulent faire du long au final, on a une espèce de tendance à vouloir montrer un petit peu de quel bois on chauffe. Donc en fait, il faut vraiment faire très attention. Là, le cours, c'était complètement voulu parce qu'on n'avait pas le temps en fait de faire un long. Mais le cours, voilà, ça permet aussi de faire des trucs complètement à l'arrache, sans trop de pression non plus, et donc d'avoir une forme très très libre. Enfin, les courts-métrages que je vois là à Clermont-Ferrand, il y a quand même ces propositions très très différentes, et on sent que les gens se prennent pas trop la tête par rapport, ils expriment vraiment ce qu'ils veulent exprimer, parce que dès qu'on est sur du long, on a voilà des implications de trouver les spectateurs, de trouver les salles de cinéma, etc. Et là, le court-métrage, voilà, c'est une forme libre. Après, effectivement, ce qui est dur, c'est d'avoir un concept, une mécanique suffisamment forte qui permette de tenir son une narration sur 10, 15, 20 minutes, en fait.
Le court-métrage est au cinéma ce que l'école des bonnes sœurs est à la boîte de nuit. C'est là que l'on apprend, c'est là que l'on fait la genèse de toutes choses pour finalement s'ennuyer dans des choses commerciales et stupides.
Vous voyez que vos personnages inspirent encore des courts-métragistes, Michel Blanc.
Je suis très flatté.
C'est vrai.
J'ai jamais fait de court-métrage,
ouais.
Pour une raison simple, c'est que je ne sais pas... Je ne sais pas raconter justement ce qu'il dit là,
oui.
C'est-à-dire de ne pas, on n'a pas le temps de rentrer dans la psychologie,
oui,
des personnages, etc.
Oui.
Et moi, ce qui me porte dans les quand j'écris, c'est d'un seul coup de développer les psychologies. Puis alors là, ça m'embarque dans autre chose. Mais il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est Patrice Lecomte m'a dit qui elle était, je sais pas, quelqu'un qui avait écrit une lettre très 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 longue à quelqu'un d'autre et qui terminait en disant pardonnez-moi d'avoir été si long, mais je n'avais pas le temps d'être court.
Le court-métrage se conclut ce soir à Clermont-Ferrand avec les Vercingétorix, ce sont les récompenses. On passe maintenant aux sorties de la semaine. On va commencer par le Eastwood, le 15h17 pour Paris. Laurent, Eastwood qui a reconstitué avec des vrais protagonistes américains l'attaque du Thalys le 21 août 2015. Ceux-là même qui ont stoppé le djihadiste marocain sur le point de commettre son attentat. Une façon de louer l'héroïsme comme un troisième volet après American Sniper et Sully. Était-ce bien raisonnable de le faire, Laurent ?
Eh bien, oui, c'est une bonne question. Je suis tout triste de devoir dire du mal, enfin le mal que j'ai pensé, moi, en tous les cas, de ce film. Très triste parce que Clint Eastwood est un grand auteur, parce que, effectivement, avec même les films que vous venez de citer, les films précédents, font sens par rapport à l'histoire des États-Unis et posent même des questions universelles. Donc ça reste incontestablement un auteur. Seulement, alors là, on est quand même confondu par le côté vide de ce qu'il vient de nous proposer. D'abord, il y a un problème soulevé d'ailleurs par la rédaction de France Inter, bravo les confrères et consoeurs, c'est que ce film vient parasiter une enquête encore en cours judiciaire, c'est-à-dire que le film reconstitue, hein, avec les vrais vrais gens, hein, reconstitue ce qui s'est passé. Or, il n'y a pas eu de reconstitution judiciaire, et du coup, le juge a dit, il n'y en aura pas. C'est quand même une interférence extrêmement grave du spectacle sur la justice, c'est pas possible. Alors, c'est Eastwood, mais enfin justement, c'est parce que c'est Eastwood, il aurait dû quand même faire un peu plus attention, et ça n'a aucun intérêt. D'ailleurs, ce chevauchement de la réalité et de la fiction, ça n'a plus aucun intérêt. Le film est caricatural, au fond, il ne raconte que les choses en disant, voilà, c'est des gens banals qui ont fait quelque chose d'extraordinaire, et ils nous montrent la banalité de leur vie pendant 1h40 de film, ça n'a strictement aucun intérêt.
Ça, c'est une pure fiction, ça s'appelle Revenge, c'est le premier film de Coralie Farja, 3. Jeune chef d'entreprise, marié et bon père de famille se retrouvent pour leur partie de chasse annuelle dans une zone désertique de canyon. L'un d'eux est venu avec sa jeune maîtresse, une Lolita ultra sexy qui attise rapidement la convoitise des autres. Les choses dérapent, elle se fait violer et dans l'enfer du désert, elle va se venger. Un film de vengeance basique traité de façon pop, arty et graphique à la manière du Tarantino de Kill Bill. Le film n'est pas subtil et au contraire joue les clichés à fond pour mieux les détourner. En gros, les machos, la pétasse. Résultat, un récit gore, haletant, superbement filmé, tourné, monté jusqu'à cette traque finale insensée et cette métamorphose de cette femme en guerrière. Oui, c'est réjouissant. Surtout quand on est une femme, c'est primaire, mais c'est réjouissant. Dans un contexte post-Weinstein qui tombe à pic, mais dont la réalisatrice ne devrait pas se servir, ce qu'elle fait parfois en interview et dans ses interventions, parce qu'un film n'est ni un tract, ni un manifeste. Pas besoin d'en rajouter. Cro-Magnon de Nick Park, Laurent, en préhistoire, oui. Quand les dinosaures et les mammouths parcouraient encore la Terre, histoire d'un homme des cavernes courageux, Doug et de son meilleur ami, Crochon.
Ben oui, c'est la journée de déception, on va dire. Non, déception par rapport aux valeurs sûres, aux valeurs établies, aux valeurs. Mais oui, Nick Park, quoi. Voilà, c'est Gros Mythe. On adore, on revoit quand on veut. C'est formidablement drôle, formidablement incisif, etc. Toutes les qualités qui manquent à ce Cro-Magnon, qui n'a rien de drôle, qui n'a qu'un fil conducteur, c'est l'anachronisme. Vous savez, facile. Alors, on compare la société actuelle avec la société préhistorique. Bon, ça a été fait 25 000 fois. On a l'impression que tout ça n'est que redite absolue, et on perd vraiment toute le originalité, je vous dis, le côté décapant de Nick Park précédemment. C'est son premier long métrage, en quelque sorte, seul par rapport au reste de ses productions précédentes, et c'est vraiment très très dommage.
England is Mine, c'est un premier film de Mark Gill. C'est le portrait de Stephen Patrick Morrissey, futur leader des Smiths, l'un des groupes pop-rock les plus connus en Grande-Bretagne, mais courte durée de vie, et le début de sa vie justement à Manchester dans les années 70. Ah, un biopic mélancolique et chronique en même temps justement de Manchester, image morose mais belle, morose comme ce garçon et son mal-être solitaire, dépressif, qui souffre d'un vrai complexe de supériorité et d'infériorité en même temps, une critique tous les autres groupes, et on est incapable d'en former un. Le film ne raconte rien d'autre, mais le raconte bien et sait capter l'adolescence réduite à une chambre, une machine à écrire et une platine. On le voit à peine chanter, mais on s'en fiche. On ressent tout ce qui fera le talent de Morrissey plus tard et le mal-être qu'il insufflera dans sa musique. Ajoutons que même sans savoir qu'il s'agit de Morrissey, le film vaut quand même le détour.
Oui, ben c'est toujours mieux et bien un biopic qui choisit son camp, camarade, oui. C'est-à-dire qui prend une période restreinte, petite, courte, quelques années et pas plus, c'est-à-dire qu'il n'essaye pas de nous donner en 1h30 la vie de quelqu'un, c'est absolument impossible. Donc comme Pablo Larraín, par exemple, le faisait avec Jackie récemment, ça fait des films beaucoup plus intéressants et des biopics qui, effectivement, fondés même sur l'ennui, sur la petitesse d'une vie, etc., sont réellement intéressant et regardable.
Atelier de conversation, c'est un doc signé Bernard Bronstein. Une fois par semaine, la bibliothèque de Beaubourg accueille des personnes des quatre coins du monde dans l'atelier de conversation pour apprendre le français. On y trouve des réfugiés de guerre, des hommes d'affaires même, des étudiants, des victimes de persécutions politiques. Un atelier qu'a pratiqué le réalisateur pendant un an, et une parenthèse chaleureuse vu les conditions qui les attendent à l'extérieur.
Mais oui, la bibliothèque du Centre Pompidou, de toute façon, c'est une sorte de rue
ruche absolument bourdonnante, oui. Et surtout à l'écart du monde, comme un cocon dans le centre de Paris, toujours. Alors, et c'est vrai qu'en plus, ces ateliers de conversation redonnent encore plus de sel et de sens à cette espèce de ruche, à l'écart du monde, avec effectivement des étrangers qui viennent se confronter à la langue française dans cet exercice qu'est la discussion. Alors, parfois, ça monte un peu en vigueur, évidemment, en fonction des sujets. Parfois, ça polémique, mais c'est très bien, c'est le débat, c'est la dispute. Mais souvent, le mieux, ce qu'on retient, c'est la joie, le bonheur qu'ont ces gens d'être là, d'être ensemble, de parler une langue commune, d'y arriver, de comprendre l'autre dans ces moments-là, dans le temps où nous sommes. C'est très important.
On rappelle les sorties, parce qu'on les a évoquées la semaine dernière, bien plus sûr, largement, de Jusqu'à la garde et de Ni juge ni soumise. Juste un petit mot sur le Festival international des cinémas d'Asie, le FICA, qui a décerné cette semaine son grand prix de cycle d'or à Bagages, du chinois Wang Xiaoshuai. Le FICA, le plus ancien festival d'Europe consacré au cinéma asiatique et le plus fréquenté aussi.
N'en
déplaise à certains, plus de 33 000 spectateurs. Laurent, un cadeau pour Michel Blanc.
Oui, un cadeau, en disant aussi que vous retrouvez toutes nos infos sur franceinter.fr et en podcast également.
Oui.
Alors, le cadeau pour vous, Michel Blanc, c'est un de vos confrères, Jude Apatow, qui a écrit Mes héros comiques, des entretiens avec Jim Carrey, Ben Stiller, Adam Sandler et quelques autres, Mel Brooks notamment. Je pense que ça peut un peu vous parler. Je pense que vous serez un peu en compagnonnage avec ces gens-là.
Bah,
voilà. Et c'est chez Capricci.
Et très flatté. Merci d'avoir été là pour évoquer ce livre Michel Blanc sur un malentendu d'Alexandre Ravelot, édité chez Or Collection. Un grand merci aussi à Jean-Bernard Emery au passage.
Merci Jean-Bernard.
On se retrouve samedi et le générique avec vous Michel Blanc.
C'est une émission inspirée par tous les films de cinéma. Il y a des réalisateurs et des acteurs, il y a aussi des scénaristes et des chefs opérateurs. Les prises de vue sont des prises de son. Sporto Cantès a écrit la musique du générique. Les morceaux ont été choisis par Muriel Pérez. Martine Messonnier s'est occupée de la préparation. C'est une émission réalisée par Anne Weinfeld. Elle est produite et présentée par Christine Masson et Laurent Delmas. Et moi, Michel Blanc, j'y étais.